Les marchandes de sable en compagnie de Hugo, fable de La Fontaine. Le berger et la mère. Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef comme il était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Coridon ou Tircis fut Pierrot, et rien davantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes à laine, et comme un jour les vents retenant leur haleine laissaient paisiblement aborder les vaisseaux. « Vous voulez de l'argent, ô mesdames les eaux ? » dit-il. « Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. » Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer, par expérience, qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que 5 en espérance. Qu'il se faut contenter de sa condition, qu'au conseil de la mer et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, 10 000 s'en plaindront. La mer promet monts et merveilles. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront.
La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. « Oh, Jupiter, dit la première, faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits d'une si terrible manière qu'un vil et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égal. Je hante les palais, je m'assis à ta table. Si l'on t'immobile un bœuf, j'en goûte devant toi, pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit 3 jours d'un fétu qu'elle a traîné chez soi. Mais ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle ? Je le fais, et je baise un beau sein quand je veux. Je me joue entre des cheveux, je rehausse d'un teint la blancheur naturelle et la dernière main que met à sa beauté. Une femme allant en conquête, c'est un ajustement des mouches empruntées. Puis allez-moi rompre la tête de vos greniers. Avez-vous dit ? Lui répliqua la ménagère. Vous vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quant à goûter la première, de ce qu'on sert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux ? Si vous entrez partout, aussi font les profanes. Sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter, je n'en disconviens pas. Et je sais que d'un prompt trépas, cette opportunité bien souvent est punie. Certains ajustements, dites-vous, rend joli, j'en conviens. Il est noir, ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait nom mouche. Est-ce un sujet pourquoi vous fassiez sonner vos mérites ? Nomme-t-on pas aussi mouche les parasites ? Cessez donc de tenir un langage si vain, n'ayez plus ces hautes pensées. Les mouches de cour sont chassées, les mouchards sont pendus et vous mourrez de faim. De froid, de langueur, de misère. Quand Phébus règnera sur notre hémisphère, alors je jouirai du fruit de mes travaux. Je n'irai pas, mon ni par vos, m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris, de soin, m'exemptera. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps. Laissez-moi travailler. Ni mon grenier, ni mon armoire ne se remplit à babiler.
Le jardinier et son seigneur. Un amateur du jardinage, demi-bourgeois, demi-manant, possédait en certains villages un jardin assez propre et le clos attenant. Il avait de plans vifs fermé cette étendue. Là croissaient à plaisir l'oseille et la laitue, de quoi faire à Margot pour sa fête un bouquet, peu de jasmin d'Espagne et force serpolée. Cette félicité par un lièvre troublé fit qu'au seigneur du bourg notre homme se plaignit. « Ce maudit animal vient prendre sa goulée soir et matin, » dit-il, « et des pièges se rient. Les pierres, les bâtons y perdent leur crédit. Il est sorcier, je crois. »« Sorcier ? Je l'en défie, » repartit le seigneur. « Fut-il diable, Miro, en dépit de ses tours, l'attrapera bientôt. Je vous en déferai, bonhomme sur ma vie. »« Et quand ? Et dès demain, sans tarder plus longtemps. » La partie ainsi faite, il vient avec ses gens. « Ça, déjeunons, » dit-il. « Vos poulets sont-ils tendres ? La fille du logis qu'on vous voit, approchez. Quand la marierons-nous ? Quand aurons-nous des gendres ? Bonhomme, c'est ce coup qu'il faut, vous m'entendez, qu'il faut fouiller à l'escarcelle. » Disant ces mots, il fait connaissance avec elle, auprès de lui la fait asseoir, prend une main, un bras, lève un coin du mouchoir, toute sottise dont la belle se défend avec grand respect. Tant qu'opère à la fin, cela devient suspect. Cependant, on fricasse, on se rue en cuisine. De quand sont vos jambons ? Ils ont fort bonne mine. Monsieur, ils sont à vous. Vraiment ? Dit le seigneur. Je les reçois et de bon cœur. Il déjeune très bien, aussi fait sa famille, chiens, chevaux et valets, tous gens bien endentés. Il commande chez l'hôte, il prend des libertés, boit son vin, caresse sa fille. L'embarras des chasseurs succède au déjeuner. Chacun s'anime et se prépare. Les trompes et les cors font un tel tintamarre que le bonhomme est étonné. Le pis fut que l'on mit en piteux équipage le pauvre potager. Adieu planche, carreau, adieu chicorée et poreau, adieu de quoi mettre au potage. Le lièvre était gîté dessous à mettre chou. On le quête, on le lance, il s'enfuit par un trou. Non pas un trou, mais troué, horrible et large plaie que l'on fit à la pauvre haie. Par ordre du seigneur, car il lui était mal qu'on n'eût pu du jardin sortir tout à cheval. Le bonhomme disait « Ce sont là jeux de prince », mais on le laissait dire. Et les chiens et les gens firent plus de dégâts en une heure de temps qu'ils n'en auraient fait en 100 ans tous les lièvres de la province. Petit prince, videz vos débats entre vous. De recourir au roi, vous seriez de grands fous. Il ne les faut jamais engager dans vos guerres, ni les faire entrer sur vos terres.
L'âne et le petit chien. Ne forçons point notre talent. Nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne serait passé pour galant. Peu de gens que le ciel chérit et gratifie ont le don d'agréer un fût avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser et ne pas rassembler à l'âne de la fable, qui pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. « Comment, disait-il en son âme, ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon, avec monsieur, avec madame, et j'aurai des coups de bâton. Que fait-il ? Il donne la patte, puis aussitôt il est baisé. S'il en faut faire autant afin que l'on me flatte, cela n'est pas bien malaisé. Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement. Lève une corne, tout usée, la lui porte au menton fort amoureusement, non sans accompagner pour plus grand ornement de son chant gracieux cette action hardie. Oh, oh, quelle caresse et quelle mélodie ! Dit le maître aussitôt. Hola, Martin Bâton, Martin Bâton accourt, l'âne change de ton, ainsi finit la comédie.
Le combat des rats et des belettes. La nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut aucun bien aux rats, et sans les portes étreintes de leur habitation, l'animal à longue échine en ferait, je m'imagine, de grandes destructions. Or, une certaine année qu'il en était à foison, le roi nommé Ratapon mit en campagne une armée. Les belettes de leur part déployèrent l'étendard. Si l'on croit la renommée, la victoire balança. Plus d'un guerrier s'engraissa du sang de plus d'une bande. Mais la perte la plus grande tomba presque en tout endroit sur le peuple souriquois. Sa déroute fut entière, quoi que peut faire Artapax, Psycarpax, Méridarpax, qui, tout couvert de poussière, soutinrent assez longtemps les efforts des combattants. Leur résistance fut vaine. Il fallut céder au sort. Chacun s'enfuit au plus fort, tant soldats que capitaines. Les princes périrent tous. La racaille, dans des trous trouvant sa retraite prête, se sauva sans grand travail. Mais les seigneurs, sur leur tête ayant chacun un plumail, des cornes ou des aigrettes, soit comme marque d'honneur, soit afin que les belettes en conçussent plus de peur, cela leur causa malheur. Trou, ni fente ni crevasse ne fut assez large pour eux, au lieu que la populace entrait dans les moindres creux. La principale jonchée fut donc des principaux rats. Une tête empanachée n'est pas un petit embarras. Le trop superbe équipage peut souvent en un passage causer du retardement. Les petits ont tout à faire esquivent fort aisément. Les grands ne le peuvent faire.